C'est une histoire de poutres et de paille entre deux hommes. L'histoire pourrait être banale, mais ici elle concerne deux chefs d'État, ceux de deux républiques, la brésilienne et la française. Cela commence lors de l'élection de M. Bolsonaro en octobre 2018. M. Macron félicite le nouveau venu, mais pose tout de suite une première poutre. La France va continuer à travailler avec le Brésil, mais dans le respect de la démocratie. Après quelques échanges de poutres et de paille, arrive cet été 2019, où le président français remet une poutre à la discorde. Compte tenu de l'attitude du Brésil ces dernières semaines, face aux incendies qui ravagent l'Amazonie, elle ne peut que constater que le président Bolsonaro lui a menti lors du sommet d'Osaka. La présidence française poursuit. Le président Bolsonaro a décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques ni de s'engager en matière de biodiversité. Et voilà que le président brésilien ne se laisse pas faire et rétorque avec une grosse poutre. Il accuse en retour son homologue français de vouloir instrumentaliser le sujet pour des gains politiques personnels et estime que la suggestion d'Emmanuel Macron d'évoquer les affaires amazoniennes au G7 sans la participation de la région relevait d'une mentalité colonialiste dépassée au XXIe siècle. Devant ce combat verbal, comme on peut en entendre souvent, mais ici un combat verbal de chefs, de représentants, de responsables, résonne fortement le verset de Matthieu 7. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien ? En effet, dans le domaine écologique, oui, le Brésil doit faire énormément d'efforts. Cette forêt amazonienne qui est défrichée et qui flambe en est bien le signe. Mais ces poutres, effectivement, ne supportent pas que l'incapacité brésilienne. Elles sont transversales. Car si l'Amazonie est dévastée, c'est aussi le résultat de nos sociétés de surconsommation. Et puis, dans la cour de l'Élysée, s'amasse un tas de poutres écologiques, bien plus hautes que la tour Eiffel. Nous sommes face à un dialogue sans issue, où il n'y a aucune volonté de trouver un terrain d'entente. Pas vraiment de respect, plus une course à la lumière médiatique et à la phrase qui va toucher le plus l'autre et les auditeurs. Alors effectivement, les joutes politiques et médiatiques font bien souvent peu de cas de l'avertissement de Jésus. Dans ce type d'échange, il reste la volonté d'imposer sa vérité aux autres et de sortir indemne du combat. Paraître le plus malin, le plus intelligent. Mais bien sûr, cela ne mène qu'à des impasses. L'objectif de l'échange est capital pour un chemin qui s'engage dans une voie qui voudrait essayer de faire tomber les pailles et les poutres. Ce n'est finalement pas tant l'objectif qui importe, mais bien le chemin pour y parvenir. Ce chemin est alors une recherche partagée, la volonté commune d'avancer vers la vérité, une vérité qui pourra se révéler porteuse de vie pour les deux parties. Et cela demande une exigence très forte dans la qualité des échanges. Dans ce début de l'évangile de Matthieu, Jésus ébauche petit à petit une loi, des paroles qui doivent mener la communauté qui le suit à vivre au quotidien la bonne nouvelle. Comme nous l'avons entendu, il vient de déclamer le sermon sur la montagne avec ses béatitudes, où il a invité son assemblée à l'humilité, à la douceur des rapports, plutôt qu'à la violence des traits d'esprit. Le chemin, c'est ici une recherche de justice pour atteindre le royaume de Dieu. Ces béatitudes en sont un peu la feuille de route. Et elles sont offertes de façon dynamique, en mettant en avant les bienfaits qu'elles procurent. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Ces nouvelles paroles puissantes sont à la fois tellement difficiles. Elles nécessitent une volonté toujours réaffirmée, placée sous le pardon mutuel. J'émets l'hypothèse qu'au temps de Jésus, ces paroles exigeantes n'ont pas non plus été comprises, pas plus qu'elles ne le sont aujourd'hui et vécues vraiment dans notre temps. Il est fort probable que certains, à la suite de Jésus, se sont auto-désignés comme censeurs et ont commencé à réprimander les autres pour leur manque de douceur, leur dureté d'esprit ou encore leur nonchalance à être artisans de paix. Vous savez, un peu comme quand une loi est donnée et puis que ce sont les citoyens eux-mêmes qui se mettent à se surveiller, à se reprendre ou pire, à se dénoncer. Cela ne fonctionne pas pour le bien vivre ensemble. Voilà ce qui a dû se passer autour du Maître Jésus. Certains, certaines, plus zélés que la moyenne, se sont sentis pousser des ailes et ont commencé à réprimander les autres. « Dis donc, tu n'as pas vu ce que Jacques a fait ? Il a repris du poisson alors que Jean n'était pas encore servi. Tu parles d'un disciple ?» Il paraît que Marthe a dit des choses terribles au lavoir. « Allez, dis-moi ce qu'elle a dit. »« Non, je ne peux pas te le répéter, car on m'a dit de ne pas le dire. » Quelqu'un de bien informé aurait vu Judas payer ses sandales avec l'argent des pains. Ah, celui-là vendrait son maître pour quelques pièces d'or. Et patati, et patata, et blablabla. Jésus souhaiterait alors sortir de ce cercle de paroles aliénantes. En parcourant rapidement le texte de Matthieu 7 sur les pailles et les poutres, on a l'impression qu'il est limpide et que nous n'avons pas besoin d'en dire plus pour le comprendre. Mais la bonne nouvelle n'a souvent rien d'évident. Alors reprenons ce texte. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. La sentence est brève, elle est claire. Si je ne veux pas être jugé, alors je ne dois pas non plus juger. Si j'en reste là, il n'y a aucune possibilité de juger l'autre. Car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera, et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on vous mesurera. Jésus poursuit en expliquant que le jugement nous est interdit, car cela se transforme vite en œil pour œil, dent pour dent. C'est finalement très désarmant. Jésus nous trouverait-il incapable de poser un jugement sur l'autre ? Cela devient inhibant. Doit-on tout supporter d'autrui, même si un comportement est nocif ? Peut-on oser corriger un frère, une sœur, malgré nos propres imperfections ? Poursuivons. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien ? Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil » alors que dans le tien, il y a une poutre ? Cette série de questions rhétoriques appuie là encore, là où cela fait mal. Et Jésus en rajoute. Peut-être était-il déçu contre ses disciples d'avoir mal reçu ce sermon sur la montagne ? Hypocrite, poursuit-il, ôte d'abord la poutre de ton œil et tu verras comment ôter la paille de celui de ton frère. Ici, nous gardons une petite lueur d'espoir. Cela nous offre une possibilité étroite. Mais la lourdeur des appréciations précédentes de Jésus nous force à nous poser la question de savoir si nous sommes finalement capables d'ôter cette paille. Risquons-nous à aller plus loin ? Rappelons une évidence. En matière de foi, Dieu est notre seul juge. Dans les béatitudes, la récompense sera à vivre dans le royaume. Nous ne pouvons ici-bas qu'en apprécier des avant-goûts. Il me semble qu'il est possible, grâce aux sévères avertissements de Jésus, de pouvoir aussi nous corriger, nous guider les uns les autres. La communauté priante autour de la parole de Dieu reste un espace de confiance où cela peut se produire si nous restons bienveillants. Plus loin, au chapitre 18 dans l'évangile de Matthieu, sera développée cette partie que vous connaissez sûrement. Si ton frère a péché, tu peux aller vers lui et lui en parler. Là aussi, ce matin, avec notre texte des poutres et des pailles, nous retombons sur notre fameuse confiance. Si nous plaçons en vérité notre confiance en Dieu et en sa parole, si nous prions pour nos frères et nos sœurs avec espérance et bienveillance, alors cette parole pourra nous habiter en vérité. Il ne s'agira plus alors de nous mesurer les uns aux autres, mais plutôt de nous donner la vie les uns aux autres. Et alors nous aurons aussi cette confiance mutuelle partagée, pour que chacun et chacune d'entre nous puisse faire ce travail de se dépoutrer l'œil avant d'avancer sa main vers la paille du voisin. Alors, et seulement à ces conditions, dans ces relations de confiance et de bienveillance, une voie étroite, mais possible, est là. Heureux, heureuses sommes-nous quand nous pouvons l'emprunter. Amen.